Eh bien, je pense que nous allons commencer. Je vois que ma femme m'a mis la liste maintenant, ce matin, des participants. Je vais la taper. J'espère que je lirai l'écriture de ma femme, qui est celle d'un médecin. Alors, vous savez que les ordonnances, c'est des fois difficile à lire. Alors, j'essaierai de comprendre ce que ma femme a écrit. Je dois bien lire ses lettres quand même, moi qui suis si souvent loin. Eh bien, puisque nous avons la joie d'avoir notre frère M. Buchanan, père, puis le fils, nous demanderons à notre frère d'introduire par la prière. Amen. Eh bien, mes amis, on vous a distribué le petit livret, oui, merci, des Actes des Apôtres en français courant. Non pas nécessairement que nous allons ce matin suivre le français courant, mais comme j'aimerais que vous vous imprégniez bien de ce livre des Actes, c'est plus facile, même quand on se promène dans la nature, vous pouvez avoir votre petit livre et vous pouvez le lire dans le français courant et ensuite comparer avec vos Bibles habituelles. Le français courant, nous ne l'avons jamais employé pour remplacer une Bible, mais comme une Bible d'approche et qui vous aide à comprendre, parce que nous avons constaté que bien souvent, dans le peuple, le vocabulaire n'était pas très riche. Et il y a des mots que plusieurs ne comprennent pas. Et alors, lire sans comprendre le sens d'un mot, eh bien, c'est presque inutile. Hein? Ou alors, on a lu, puis on ne sait pas ce que cela veut dire. Il faut toujours chercher à comprendre le sens d'un mot. Et je connais très bien celui qui a dirigé la traduction en français courant, c'est un de nos amis, il est aussi ami du docteur Page, de sorte que on l'a bien calomnié en disant qu'il avait voulu supprimer toute espèce de choses importantes dans l'écriture. Ce n'est pas vrai. Et je suis navré de constater combien même dans certains de nos milieux, on essaye de démolir ceux qui cherchent vraiment de tout leur cœur à mettre la Bible à la portée des plus humbles. Hein? Alors ça, c'est le français courant. Nous n'avons jamais dit que c'était parfait, parce qu'il n'y a rien de parfait sur la terre. Mais on est en train aussi de faire le français fondamental pour les Noirs d'Afrique qui ont encore moins de connaissances de la langue et des mots, du vocabulaire, que ce que nous avons ici au Québec. De sorte que vous pourrez comparer, et il y a des choses qui sont vraiment remarquables. Tout à coup, quelqu'un dit « Ah, mais maintenant, je comprends. » Et c'est cela qui compte. Et ne pensez pas que l'on a voulu faire quelque chose de mauvais, on a voulu servir le Seigneur. Alors, nous vous l'avons donné comme Bible d'approche, et ce petit livret est facile d'avoir avec vous. Si vous voulez vous promener, méditer, vous lisez ce chapitre que nous allons lire maintenant. Mais vous pouvez prendre vos Bibles. Alors, nous continuons donc sur ce thème, vous serez mes témoins. Et nous vous rappelions que cette parole du chapitre 1er des Actes, verset 8, était une parole même de Jésus qui donne cet ordre à ses disciples. Une parole de Jésus ressuscité. C'est toujours intéressant aussi de noter toutes les paroles que nous connaissons de Jésus ressuscité. Il y a les paroles qu'il a données avant sa mort, Puis il y a les paroles du ressuscité qu'il a prononcées pendant les 40 jours où il s'est manifesté à plusieurs reprises, non pas au monde, mais à ses disciples, à ses apôtres, à ceux qui l'avaient reçu et que lui-même avait formé pour qu'ils deviennent ses témoins. Lui-même avait été le témoin du Père. Il avait rendu témoignage aux choses qu'il avait entendues par le Père et aux choses qu'il avait vues faire par le Père. C'est cela, être un témoin. Alors, ce témoin dans les nues est venu sur la terre. Et nous pouvons savoir quelque chose du ciel parce que lui était dans le ciel. Son commencement n'était pas à la crèche, pas plus que sa fin ne pouvait être à la croix. Et c'est cela qui m'impressionne tellement. Dieu nous a tellement aimés, il a voulu répondre au désir du cœur de l'homme qui disait « Pour croire, il faudrait qu'on le voie. » Eh bien, Dieu s'est incarné en son Fils, en Jésus, et il est venu ici-bas. Il s'est anéanti lui-même, il a pris un corps pour vivre au milieu des hommes, au risque de ne pas être reconnu. Il avait pris vraiment notre condition humaine à l'exception du péché. Mais il était l'homme venu du ciel. Et il a dit un jour à un théologien, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Et nous devrions être de ceux qui, ayant entendu Jésus, connaissent quelque chose du ciel, parce que c'est quand même cela qui importe aussi pour nous. C'est là que nous allons. Ou bien, est-ce que vous allez seulement vers le cimetière? Parce qu'il faut bien nous mettre cela dans la tête et dans le cœur. Il n'y a pas d'espérance pour nous de demeurer ici-bas. Et dans cette salle, j'entends toujours le professeur Gary, qui est maintenant décédé, et qui avait été haut-commissaire de France en Indochine, et qui disait à nos jeunes, plusieurs s'en rappellent, « Au cours de notre existence, on peut avoir bien des pensées au sujet de la religion, au sujet de l'au-delà, mais quand arrive le moment de la vieillesse, où s'impose à nous la certitude qu'il n'y a pas d'espérance de demeurer toujours ici-bas, que s'impose la certitude de la mort, non pas qu'on ait eu peur de la mort à certains moments de notre existence, mais maintenant, on va vers la mort. Eh bien, disait-il, on se met à espérer que ceux qui croient à la vie éternelle aient raison. Voilà comment cet homme, qu'on m'avait dit être un athée, a commencé son exposé. C'est beau, quand même. Il a été assez humble pour dire, bien, quand on sait qu'il n'y a pas d'espérance de rester toujours ici-bas, on espère que ceux qui croient à la vie éternelle aient raison. Et je veux croire aussi de tout mon cœur qu'il a eu une approche du Seigneur et qu'il se sera révélé à lui. Mais il avait été très impressionné de voir tous ces jeunes, c'était le camp des jeunes, groupés ici pour étudier la parole de Dieu. Alors, je reviens maintenant à notre livre des Actes, à notre chapitre 4e, qui se compose de 37 versets. Et nous allons le lire et vous allez chercher quel titre peut-être vous pourriez donner à l'ensemble des vérités que contient ce chapitre pour pouvoir vous rappeler plus facilement ce qui est dit. et retrouver dans la vie quotidienne un passage qui vous a frappé. Je vous disais hier soir que ce livre des Actes, qui dans le Nouveau Testament suit les quatre évangiles, a été écrit par Luc, l'auteur de l'évangile qui porte son nom, nom qui signifie quoi ? Lumineux. Et ce qu'on sait de lui, c'est l'apôtre Paul qui nous l'a révélé, car Luc, disions-nous, était si modeste qu'il ne parle jamais de lui, ni dans l'évangile, ni dans les actes, sinon au chapitre 16 des actes, par le simple mot « nous » que vous trouvez au verset 10 et dans les versets suivants, où nous apprenons, puisqu'il dit « nous », qu'il était un compagnon de voyage de Paul et de Silas lorsqu'ils décidèrent d'aller en Macédoine et de commencer d'évangéliser l'Europe. Quelle est la première ville qui a été évangélisée en Europe? C'est Philippe, ville de Macédoine. Et c'est Paul aussi qui nous apprend le métier qu'avait Luc. Il était mauvais médecin? Il était certainement un bon médecin, puisque Paul l'appelle le médecin bien-aimé. Il ne s'est pas plaint de ce médecin. Ce qui nous montre que Paul a pu avoir recours à ce médecin qu'était Luc et qui les accompagnait dans les voyages. Et nous vous disions que nous pensions que Luc était peut-être ce frère dont il est parlé dans la deuxième aux Corinthiens, ce frère dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. Je ne sais pas s'il était en train de composer, parce qu'il a mis du temps, cet évangile, mais enfin, il était versé, il faisait des recherches, même si son évangile n'était pas encore terminé, quand Paul en parle, on savait que Luc faisait des recherches pour apporter l'histoire de Jésus. Il questionnait à droite et à gauche tous ceux qu'il pouvait pour avoir des certitudes à transmettre à ce Théophile, cet excellent Théophile qui voulait connaître la vérité au sujet de Jésus. Et on a pensé que puisqu'il ne l'appelle plus excellent dans les actes, alors que dans l'évangile de Luc, il l'appelle excellent, qu'il était devenu très intime, très ami. Et alors, quand on est devenu ami et frère, on n'a pas besoin de souligner nos titres. Il y a beaucoup de gens qui aiment mettre leurs titres en avant. Quand on est dans le Seigneur, les titres que l'on peut avoir, ils sont au pied de la croix et ce n'est pas un titre qui nous sépare. On est des frères. N'appelez personne sur la terre votre maître, avait dit Jésus. Mais avant, nous respectons les règles de la politesse d'usage. Et si Théophile était un gouverneur, on pouvait très bien l'appeler excellent Théophile, comme Paul lui-même appelait excellent Festus. Je ne suis pas fou, excellent Festus. C'était un terme de politesse courant dans ce temps-là. Alors, ce qui me frappe, et je reviens là-dessus parce que j'aimerais que ça vous pénètre. Théophile veut dire, vous vous souvenez? Bien-aimé de Dieu. Et nous-mêmes alors, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des bien-aimés de Dieu, donc nous sommes tous des théophiles. Et c'est pourquoi je vous disais, quand vous lisez les Actes, si vous voulez vraiment recevoir une bénédiction, lisez ce livre comme s'il vous était écrit à vous. C'est cela qu'il nous faut lire, un livre de la Bible, en se disant, c'est un message qui m'est adressé à moi. Pas à un inconnu, mais à moi, aujourd'hui, je suis un théophile, je suis un bien-aimé, qui connaît déjà des choses au sujet de Jésus, mais je veux en connaître davantage sur Jésus et sur les fruits du ministère de Jésus. Et nous bénissons Dieu d'avoir suscité Luc, cet homme si fidèle, qui est allé jusqu'à Rome avec l'apôtre Paul. On le trouve à Rome, au chapitre 28 des Actes, et avec lui au moment de sa mort. Puisque Paul, dans son testament spirituel, dit « Tous m'ont abandonné, mais Luc seul est avec moi. » Luc était resté avec le prisonnier condamné à mort et qui, selon la tradition, fut décapité sous l'ordre de Néron. Donc, Luc a écrit les Actes des apôtres comme une suite de son évangile. Et on ne peut pas lire les Actes des apôtres sans avoir lu d'abord l'évangile de Luc, puisque c'est, au fond, la suite, comme nous l'avons souligné en étudiant le chapitre premier. Et l'on peut dire, comme ça a été souligné, que Actes des apôtres, Actes des envoyés, pourrait être nommé aussi Actes de qui? Du Saint-Esprit. Ce qui caractérise le livre des Actes, c'est la venue du Saint-Esprit que nous avons souligné quand nous avons étudié hier le chapitre 2. Les Actes du Saint-Esprit, et qu'est-ce que le Saint-Esprit a versé dans nos cœurs? L'amour. L'amour a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, hein. Mais l'amour, est-ce que c'est un liquide? L'amour de Dieu, qui est l'amour de Dieu? C'est Jésus. Donc nous insistons sur ce fait que le Saint-Esprit fait habiter en nous quelqu'un, non pas une doctrine particulière. C'est ce qui nous afflige tellement dans beaucoup de milieux même évangéliques. On vient tout de suite avec une doctrine, hein. Et puis, si on n'a pas fait certaines expériences au sujet de telle doctrine, il n'y a plus le contact. Eh bien, non. Quand on se rencontre, parce que Jésus est dans nos cœurs, il y a ce que j'appelle ce contact des entrailles. C'est pas parce qu'on a d'abord toutes les mêmes pensées, toutes les mêmes idées, mais on est comme Marie rencontrant qui? Élisabeth, hein. Marie portait déjà le Seigneur en elle. C'était pas visible encore. C'était au début de la visitation, de l'annonciation. Elle est allée chez Élisabeth, mais quand elle a salué sa vieille cousine, l'enfant que portait Élisabeth a tressailli. J'aime beaucoup cela. Quand on se rencontre avec quelqu'un et qui connaît le Seigneur, qui a le Seigneur, même s'il n'a pas toutes les connaissances, mais qui aime Jésus, il y a un contact, il y a une joie, et alors il y a cette salutation, et il y a une édification, et il sort un magnificat de nos lèvres. Après avoir entendu la salutation d'Élisabeth, eh bien, Marie a explosé. « Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Bien que nous puissions, entre chrétiens, même si sur certains points nous n'avons pas les mêmes pensées, mais que nous puissions déjà nous aimer parce qu'il y a l'essentiel en nous, la personne du Seigneur Jésus. Et c'est donc non pas seulement les actes du Saint-Esprit, mais c'est les actes même de la personne de Jésus en nous qui vont se manifester au travers de ce livre. C'est bien les actes des apôtres, ce qu'ont accompli les apôtres, comme témoins de ce qu'ils ont vu et entendu, mais vous voyez dans tous ces actes, au fond, les œuvres de Jésus, qui se multiplient, qui se continuent, et les apôtres ne disent pas « nous avons fait ceci ». Ils disent « Dieu a fait avec nous ». Nous aurons l'occasion de le voir en écoutant l'apôtre Paul. Quand il racontait dans une église ce qui lui était arrivé, les merveilles du Seigneur, il ne disait pas « voilà les merveilles que j'ai faites ». Mais il disait ce que Dieu avait fait avec eux. Parce que c'était des hommes qui, comme Marie, avaient compris que servir le Seigneur, c'est pas faire des choses pour le Seigneur, c'est se laisser faire par le Seigneur. J'insiste beaucoup là-dessus. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait, selon ta parole. Mais se laisser faire par le Seigneur, c'est accepter de mourir. Et c'est là la leçon que Marie nous a donnée. Elle a accepté que la volonté de Dieu s'accomplisse en elle, sans savoir qu'un ange viendrait parler à son fiancé, Joseph, parce que Joseph, la trouvant enceinte, n'allait pas croire qu'elle était enceinte du Saint-Esprit. Allez raconter ça ailleurs. Si vous avez une fille qui rentre chez vous et qui est enceinte et qui vous dit « je suis enceinte du Saint-Esprit », qu'est-ce que vous penseriez? Vous ne croyez pas, n'est-ce pas? Alors, il a fallu l'intervention de Dieu parce qu'elle devait mourir, elle devait être brûlée ou lapidée. Eh bien, elle a risqué ça, elle s'est abandonnée. Mais le Seigneur a pourvu pour Marie. Alors, c'est pourquoi je dis que Marie est pour nous un exemple. Nous n'en faisons pas ce qu'une certaine église a fait de Marie, mais nous aimons à souligner tout ce qu'elle a pu aussi nous apprendre, parce qu'elle est la mère bénie de notre Seigneur. Le Seigneur n'a pas choisi n'importe qui. Et quand j'ai dû parler au stade olympique à Montréal en 1979, devant 40 000 personnes, puisqu'on me l'avait demandé, j'avais à cœur de montrer ce que Marie pouvait être pour nous, croyants évangéliques, n'est-ce pas, qui veulent s'en tenir simplement à la parole de Dieu. Oh, mes frères bien-aimés, mes sœurs, que nous puissions être ouverts à tous ces enseignements de la parole. Une chose qui m'avait frappé, c'est que bien souvent, on nous parle de Marie-Madeleine, on nous parle de Ruth, on nous parle de Rahab, de toutes les femmes bibliques, mais on dirait qu'on n'ose pas parler de Marie. Eh bien, ce n'est pas parce que d'autres personnes ont exagéré et ont tout déformé qu'il nous faut nous taire. Nous sommes de ceux qui disent encore qu'elle est une bienheureuse. Il n'y a pas besoin d'un pape pour nous dire cela. Toutes les générations la diront bienheureuse. Et nous sommes en communion avec ces bienheureux. Nous avons une nuée de témoins qui nous entourent et nous ne nous sentons pas seuls parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et pour lui, même ceux qui nous ont précédés, ils vivent, tous vivent. Nous vivons avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Leurs exemples nous inspirent et nous montrent ce que nous avons à faire ou ce que nous ne devons pas faire. Parce que ces biographies bibliques nous montrent que ces hommes ont eu des imperfections. Et ces imperfections, leurs manquements, nous sont manifestés. C'était des hommes aux mêmes passions que nous, mais ils se sont laissés saisir par l'Esprit et ils se sont laissés corriger. Ils ont su demander pardon, ils ont su revenir au Seigneur. Est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas, dit Jérémie au chapitre 8. Est-ce qu'on se détourne et qu'on ne revient pas? Tout cela peut nous arriver. Et voyez-vous, on peut avoir écrit les plus beaux psaumes, comme l'a fait David, et dans un moment où nous ne veillons pas, où nous ne sommes pas à notre place, où nous ne sommes pas sur nos gardes, en quelques instants, par la convoitise des yeux, nous pouvons tomber dans le péché qui en amène un autre et qui peut faire de nous un adultère et même, quoi? Un criminel, un meurtrier. Et c'est cela que j'aime dans la Bible. Pourquoi je suis un amoureux de la Bible? Parce que, comme le disent les rabbins, Dieu nous a donné dans l'Ancien Testament des exemples de vie. C'est pas tellement de la doctrine, mais on voit des hommes qui étaient comme nous et qui se sont trouvés dans certaines situations et qui ont fait quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Et alors, on a ces exemples. Tout est vivant dans l'Écriture sainte et cela nous parle avec beaucoup de force. Et vous le savez que tout ce que nous allons voir au travers de ce livre couvre environ 35 années de Jérusalem, de la Pentecôte, jusqu'aux événements de Rome, il y a un espace d'environ 35 ans, une génération de ce temps-là. Il n'y avait pas les moyens de locomotion que nous avons, hein, mais on est bouleversé de voir ce que ces hommes qu'on a connus dans les évangiles, si fragiles, si égoïstes, si prétentieux, tous ces apôtres, ils avaient tous les défauts qu'on peut avoir, eh bien, une fois que le Saint-Esprit s'est emparé d'eux, comme nous l'avons souligné hier, c'était des hommes entièrement nouveaux. Ils avaient été 3 ans dans l'école biblique de Jésus, mais ils avaient tous échoué, et puis, alors, ils ont été brisés, et après ce brisement, le Saint-Esprit a pu les remplir, et vous voyez des hommes nouveaux auxquels le Seigneur peut faire confiance, et c'est lui qui va les conduire. Il leur a dit, comme il l'avait dit à son père, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les ai envoyés. Nous sommes donc identifiés au ministère de Christ. Et c'est dans ce livre des Actes que cette église dont le Seigneur avait parlé dans Matthieu à Césarée de Philippe a été fondée. Nous aurons l'occasion d'en parler quand nous trouverons la première mention du mot « Église » dans le livre des Actes. On dit toujours que l'Église du Christ a été fondée le jour de la Pentecôte. Dieu a baptisé par son esprit en un seul corps ces enfants de Dieu qui étaient dispersés. Ils ont été baptisés par un seul esprit, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, mais nous n'allons pas aller plus vite que le texte. Quand nous arriverons au mot « Église », nous reviendrons sur cette appellation que Jésus a employée en disant « Sur ce roc, sur la confession qu'a fait Pierre, je bâtirai mon Église. Mais on n'en est pas encore là. C'est cette Église qui est composée de tous ceux que le Seigneur a appelés tant du judaïsme que du christianisme. Mais l'Église avant la mort de Jésus et avant la Pentecôte n'existait pas. Puisque Jésus dit « Je la bâtirai ». Elle n'existait pas. Il y avait bien eu l'assemblée du désert, mais ce n'était pas l'Église. L'Église est quelque chose de tout à fait nouveau qui ne pouvait surgir qu'après la mort de Jésus. Il n'y aurait jamais eu d'Église si Jésus n'était pas mort. Est-ce que vous le croyez? Ou bien est-ce que vous pensez que l'Église c'est simplement la continuation d'Israël? Ce qu'on enseigne dans bien des églises. Il fallait que le grain de blé tombant en terre meure. Si Jésus n'était pas mort, eh bien, il n'y aurait eu qu'une vie de Jésus. Mais en acceptant de mourir, de donner sa vie, c'est pour cela qu'il insistait sur la nécessité de sa mort, de ce grain de blé allait jaillir un épi et un champ de moisson merveilleux. De sorte que les enfants de Dieu, ceux qui sont rachetés, sont des hommes et des femmes qui ont la vie même de Jésus. C'est la vie de Jésus qui va se manifester dans notre chair mortelle. Mais comme Jésus est mort, nous aussi, si nous avons accepté Jésus, nous sommes morts avec lui. Et c'est cela que nous témoignons dans le baptême, que nous sommes identifiés au Christ dans sa mort, mais que le Christ dans sa mort nous identifie à lui, et comme il est le prince de la vie et qu'il ressuscite, nous ressuscitons avec lui. De sorte que la vie que nous avons, une fois que nous avons reçu le Seigneur, est-ce que c'est notre vie charnelle améliorée? Non, c'est une vie nouvelle. C'est la vie du second homme. C'est la vie du dernier Adam. Il y avait eu la vie, nous sommes nés avec la vie du premier Adam qui est tombé, qui a chuté, le péché est en nous, mais quand nous naissons de nouveau, quelle est la vie qui vient nous habiter? La vie du second homme, la vie de Jésus. Et les fruits qui seront produits en nous, ce n'est pas la chair qui va les manifester, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, de sorte qu'il n'y a plus de gloire pour nous. On ne peut pas se glorifier de nos œuvres. Les œuvres qui sont accomplies en nous sont les œuvres de Dieu. Donc toute gloire est au Seigneur. Mais s'il n'y a pas d'œuvres, il n'y a pas de vie non plus. Ou si les œuvres sont mauvaises et qu'on ne sait pas s'en repentir, eh bien, on peut douter de la réalité de la conversion. Je suis navré de me rendre compte que dans bien des milieux, on a enseigné la perte du salut. On peut perdre son salut. Et pour quelle raison? On est évangélique, mais on peut perdre son salut. On veut tellement faire de conversion, et les conversions n'étant pas des conversions réelles, il y a tellement de déchets que alors la doctrine de la perte du salut entre là pour donner l'explication de tous les déchets. Mais si on connaît ce que Jésus a fait pour nous, on peut bien être sûr qu'il n'est pas mort pour nous abandonner. C'est pas possible. Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Et ce qui me frappe, c'est que quand, dans l'enseignement de Jésus, il parle des vierges qui frappent à la porte et qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », ou bien dans le sermon sur la montagne, ceux qui ne sont pas entrés par la porte étroite et qui disent au Seigneur « N'as-tu pas enseigné dans nos rues? N'avons-nous pas mangé et bu en ta présence? On aura communié !» On aura été baptisé et tout ce que vous voulez, même baptisé par immersion. Ce n'est pas cela qui vous sauve. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? On aura imposé les mains, on aura fait des miracles. Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Donc il n'y a jamais eu de relation. Il y avait bien une connaissance, mais qui n'était pas une identification, une relation vivante. Il y avait une connaissance intellectuelle, une adhésion intellectuelle ou sentimentale. On avait de l'admiration, de l'affection pour Jésus, mais Jésus n'était pas en nous. On avait un Christ extérieur. Or, Jésus a voulu nous devenir intérieur. C'est un Christ intérieur que nous avons. Parce qu'un Christ extérieur que nous voudrions imiter, c'est un modèle inimitable. Ce qui compte, c'est de laisser Jésus agir et vivre en nous. Alors, nous aurons des actes aussi qui seront conformes à la volonté du Seigneur et qui continueront ce livre des actes des apôtres. Tenez, nous aurons des actes aussi qui seront conformes à la volonté du Seigneur et qui continueront ce livre des actes des apôtres. Dans chapitre 3, avec lequel nous avons terminé et hier soir, nous avons vu comment l'apôtre Pierre, sans avoir été préparé pour rencontrer un malade, a été saisi sur le chemin et comment, au nom de Jésus, le malade a été guéri. Et comment il a pu apporter une prédication pour expliquer ce qui s'était passé en détournant les regards des foules étonnées et émerveillées de lui-même et de Jean pour les fixer, ses regards, sur Jésus. C'est ce Jésus que nos chefs ont crucifié, qui est ressuscité, et c'est la puissance de son nom qui a rétabli ce malade. Il y avait là une preuve irréfutable. Et alors, à quelle heure est-ce qu'ils avaient commencé? À 3 heures d'après-midi. Et le soir était venu. Pierre avait pu leur annoncer même une bonne nouvelle, que Dieu même pardonnait le crime de Golgotha. Parce que Jésus avait dit, Père, pardonneur, ils ne savent ce qu'ils font. Et Pierre admet que même on n'a pas su ce qu'on faisait. Et il leur dit, si vous vous repentez, le Seigneur viendra vous donner le temps de rafraîchissement. Et il leur a ouvert encore la porte. Puis qu'est-ce qu'il y a eu? Un endurcissement. Évidemment, quand il y a une bénédiction, vous pouvez être sûr qu'immédiatement, après, quand vous vous dites, oh mais c'est merveilleux, j'ai reçu une grâce de Dieu, une bénédiction, c'est fantastique, on est dans la joie, presque dans l'euphorie, et tout de suite après, qu'est-ce qui arrive? Dans la même soirée, quelques heures après la grande manifestation de puissance, eh bien, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Et on sait qui était leur chef. Hein? Qui étaient ces chefs? Ceux qui avaient fait crucifier Jésus. Anne et Caïphe, ils ne peuvent pas admettre que ces quelques Galiléens continuent de parler de ce Jésus. Mais ils ne peuvent pas nier qu'il y a un miracle. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de reconnaître, nous nous sommes trompés, au lieu de reconnaître, nous avons péché, et de se repentir, leur orgueil ne leur permet pas de se repentir. Ils ne veulent pas perdre la face. Nous avons bien fait de crucifier Jésus, c'était un imposteur. Et alors, ils veulent maintenir leur position au lieu de se laisser corriger. Au lieu d'admettre qu'ils avaient fait une erreur, ils se sont endurcis comme le pharaon autrefois en Égypte. Et c'est toujours l'orgueil. Ils ont préféré la gloire des hommes. Alors, verset 2, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Parce que la doctrine des Sadducéens, c'était des gens qui niaient la spiritualité, ils niaient la résurrection, ils niaient les anges. Alors, prétendre que Jésus était ressuscité, ça mettait en bas leur doctrine. Ça mettait en bas leur raison d'être. Alors, on excommunie ceux qui touchent à notre raison d'être. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Vous voyez que je n'ai rien inventé, car il est dit, car c'était quoi? C'était le soir, hein? C'était le soir, vous voyez, dans la même journée, ce qui peut se passer. Et nous devons être avertis que dans la même journée, nous pouvons avoir des délivrances, mais aussi des épreuves. Pierre venait de finir son discours et voilà qu'on va mettre la main sur lui et sur Jean. Au fond, ces hommes vont vivre les paroles que Jésus leur avait dites. Et vous savez, ils avaient été avertis. Nous aussi, on est avertis souvent, hein. Mais quand les choses nous arrivent, on est étonné. Puis on dit, mais comment Seigneur, j'étais en train de te servir, j'étais en train de faire ta volonté, et voilà ce qui m'arrive. Pourquoi est-ce que nous repassons pas dans nos cœurs ce que le Seigneur avait dit? Souvenez-vous du sermon sur la montagne. Je crois que c'est bon de lire ces quelques versets. Chapitre 10 de Matthieu. Au verset 16e. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oh, c'était des paroles que Jésus avait dit. Mais maintenant, les loups sont là. Hein? Et quand les loups sont là, on ne dit pas Alléluia. Hein? Quand les loups sont là. Soyez donc prudents comme les serpents, simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. C'était dans le programme. Hein? On est toujours étonnés, mais c'était dans le programme. C'est dans le programme du chrétien. Ils vous battront, on va voir ça un peu plus loin, hein? De verges, dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre, et devant les rois pour servir de témoignage. Vous voyez qu'est-ce que c'est qu'un témoignage, mes amis? C'est pas simplement se lever dans une réunion puis dire voilà ce que Jésus a fait pour moi, hein. Le témoignage, c'est notre vie entière. C'est d'être dans une certaine situation et de pouvoir louer le Seigneur pour que les païens se convertissent. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné quand? À l'heure même. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Eh bien voilà, le Saint-Esprit allait leur rappeler ces vérités, et c'est pourquoi, même dans la prison, eh bien, ils ne se sont pas désespérés. Car ce n'est pas à vous, vous voyez que je ne vous dis rien de faux. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père. Donc vous êtes habité par l'Esprit de votre Père, cet Esprit qui était sans mesure en Jésus. Et puis maintenant, c'est pas seulement là, mais prenez maintenant Luc au chapitre 12, parce que c'est bon de voir qu'ils étaient avertis. Mais voilà, tout à coup, ces choses arrivent. Tant que Jésus était là, ils avaient été gardés, mais maintenant, ils connaissaient l'opposition du monde. Au chapitre 12 de Luc, au verset 4e, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Ça me fait penser à ma belle-mère qui a été missionnaire en Chine. Quand les Japonais l'ont arrêtée et voulaient leur couper la tête à mon beau-père et à ma belle-mère, eh bien, ils ont été délivrés par la grâce de Dieu. Mais on demandait un jour à ma belle-mère, « Mais vous n'aviez pas peur quand on vous conduisait là pour vous faire mourir ?»« Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient nous faire ?» Ils nous envoyaient vers le Seigneur. Vous voyez que, comme c'est beau, c'était pour elle dans le programme, elle avait compté cela. On ne va pas en mission en disant, comme un jeune candidat missionnaire était arrivé en mission, puis la première chose qu'il a dit aux missionnaires qui étaient sur place, « Vous savez, je ne suis pas venu ici pour me tuer. » Eh bien, quelqu'un qui dit ça, hein, on le renvoie. Parce que si vous allez en mission, c'est peut-être pour y mourir. C'est dans le programme. Et il faut savoir ce qu'il y a dans ce programme. Eh bien, vous lirez ces versets jusqu'au verset 12, où on voit ce que nous devons craindre. Puis au chapitre 14, je vous les cite simplement, ces versets. Verset 26 à 33, et aussi au chapitre 21 du même évangile de Luc, versets 12 à 17, où il est dit, on mettra la main sur vous. C'est exactement ce qu'ils ont fait. On mettra la main sur vous. Et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois, devant les gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car, il est souligné encore une fois, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Eh bien, voilà, cela arrivait dans cette soirée à Jérusalem où un miracle merveilleux avait été opéré. Verset 3. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu crurent. Ah, vous savez, c'est justement en voyant ce qui arrive aux témoins que les gens sont touchés. Mais si on avait vu Pierre et Jean se défiler et dire, mais on ne reviendra plus ici, on ne parlera plus du nom de Jésus, tout était fini. Ils ont vu ces personnes conséquentes qui se sont laissées emmenés en prison sans crier. Et il y a eu des conversions. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Il n'y a pas eu 5000 conversions à ajouter aux 3000, mais le nombre des croyants qui s'étaient montés après les 3000 plus les 120 qui étaient dans la chambre haute, eh bien, arrive à 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem. Puis alors, nous avons les noms que nous retrouvons dans le procès de Jésus. Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Vous voyez comment on avait placé au milieu Jésus, hein, autrefois, On les a placés, maintenant ils sont là où était Jésus. Si vous voulez suivre Jésus, il faut accepter d'être là où il sera. Si quelqu'un me sert, disait Jésus après avoir parlé du grain de blé, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Mais il est ajouté dans le 12 de Jean, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. On a affaire avec le Père des cieux, sans qui rien n'arrive. Alors ils leur demandèrent, par quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela? Le nom ici signifie la personne. C'est toujours ainsi dans l'Écriture. Le nom qu'on porte signifie la personne. C'est pourquoi, je vous le dis, ne mettez pas n'importe quel nom à votre enfant. Priez lorsque vous mettez un nom à votre enfant. Demandez à Dieu, quel est le nom que tu veux que je donne à mon enfant? Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Vous voyez le changement chez Pierre? Avant, quand une servante lui a dit, mais toi aussi, tu es de ces gens-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne connais pas cet homme. Il l'a renié 3 fois. Mais maintenant, c'est un autre homme, l'apôtre Pierre. C'est un homme nouveau, tout a été recréé en lui. Et il leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés, et c'est un pêcheur qui parle, hein, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Il est courageux, hein? C'est une hardiesse incroyable, hein? Mais c'est plus la hardiesse de Pierre dans la chair. Vous vous souvenez comme il était hardi avant la Pentecôte? Il se mettait toujours en avant, il était toujours le premier à parler, il jugeait tous les autres alors qu'il ne se connaissait pas lui-même. Mais maintenant qu'il a été brisé, ce n'est plus la hardiesse charnelle. Cette hardiesse qui nous fait faire des œufs pour le Seigneur, on part à toute allure dans une certaine œuvre, et puis on apprend quelques mois après que tout est par terre. C'est la chair qui a agi. C'est pas une œuvre de Dieu. C'est une œuvre qu'on a voulu faire pour Dieu. Or, Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose pour lui. Il nous demande de nous laisser faire par lui. Oh, si vous pouviez comprendre cela, comme votre vie quotidienne changerait. Puis peut-être qu'un jour il vous demandera de ne rien faire, puis vous ne saurez pas vous arrêter. S'il nous demande de ne rien faire, d'être simplement en prière, dans le silence. Après qu'Élie a été employé par Dieu, Dieu le met au torrent du Kérit. Élie aurait pu dire, mais Seigneur, on a besoin de moi ailleurs, non? Va au torrent du Kérit, et c'est là que tu seras nourri. Pas de problème quand on dépend de Jésus. Même les corbeaux sont à notre service. Puis moi, je trouve que c'est formidable, hein, qu'ils ne mangeaient pas la nourriture. Et ils y apportaient chaque jour, le matin, le soir. Ah, ces transports célestes. Les oiseaux n'ont pas renié le Seigneur. Ils sont au service du Seigneur. Toute la création est au service du Seigneur. Et nous, nous ne serions pas au service du Seigneur? Et nous ne ferions pas des expériences merveilleuses? Les oiseaux du ciel n'ont pas de soucis. Puis nous, on est plein de soucis. Moi, j'ai compris une fois pour moi-même, je l'ai dit ici, que mes soucis, maintenant, je comprends que ce sont des péchés, parce que Jésus a dit, ne vous mettez pas en soucis. Donc, quand je me mets en soucis, je pêche. Mais je suis une nature soucieuse. Alors, ben, je confesse. Puis je dis, Seigneur, je te fais confiance. Puis au lieu de me creuser la tête, en me disant qu'est-ce qui va m'arriver, comment est-ce que le Seigneur va m'en sortir, hein? Alors voilà qu'on est dans l'espérance. Et nous devons être des gens d'espérance. Mais on ne peut espérer que quand on est justement dans l'affliction, eh bien que nous soyons de ceux qui comprennent cela. Alors il témoigne avec force et il dit, eh bien, c'est au nom de Jésus. Jésus est la pierre. Et ça, c'est merveilleux. quand on est avec des personnes enseignées dans le catholicisme, eh bien, c'est cela qu'on peut dire. Mais comment est-ce que Pierre a compris la célèbre parole de Jésus? Tu es Pierre et sur ce roc ou sur cette pierre je bâtirai mon église. Allez trouver ce que Pierre lui-même explique. C'est, il dit pas, c'est moi la pierre. Hein? C'est lui, la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà ce qu'ils ont dit. Alors, vous voyez, verset 13. Alors, l'effet de cette prédication sur le Sanhédrin, après ce discours, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, mais ce n'est pas une assurance charnelle, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ah, ça c'est une parole que j'aime beaucoup. On les a reconnus pour avoir été avec Jésus. On voyait Jésus en eux. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il y avait le témoignage, hein. Ils n'avaient rien à répliquer. C'est exactement ce que Jésus avait dit. Hein. Ils ne pourront pas répliquer. Vous aurez une assurance. Et le Seigneur pourvoyait. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin pour délibérer. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Les délibérations du Sanhédrin, alors que les disciples sont hors de vue. Que ferons-nous à ces hommes? Parce que vous voyez, quand ils sont seuls à huis clos, il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais vous voyez que ce n'est pas un miracle qui convertit quelqu'un. Hein. On nous dit, ah, si nous faisions des miracles, davantage de miracles, les gens se convertiraient. Eh bien, ce n'est pas cela que Paul nous dit. Il a refusé de faire des miracles, parce qu'il ne veut pas que la foi soit basée sur une émotion, sur une démonstration extérieure. Il veut qu'elle soit basée, cette fois, sur la parole de Dieu. C'est ce qu'il a compris pour les Corinthiens. Alors, verset 17, puisqu'ils ne peuvent pas nier ça, mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Alors, quelle est la réponse de Pierre? Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de tout ce que nous avons vu et entendu. » Voilà la définition du témoignage. Le témoignage, c'est dire ce que nous avons vu et entendu. Ça a une toute autre portée que ce qu'on appelle toujours un témoignage. Qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on a entendu? De ce que le cœur est rempli, la bouche parle. Alors, de quoi nos cœurs sont-ils remplis? Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir. Ils ne peuvent quand même pas tout de suite les crucifier. Il faudrait retourner avec Pilate. À cause du peuple, car le peuple glorifiait Dieu de ce qui était arrivé. Cet homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc ce n'était pas un enfant ou un jeune homme, c'était un homme d'âge mûr, 40 ans, et qui était guéri. Alors, que voulez-vous? Après avoir été relâchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix, tous ensemble, et dit, alors voilà, il y a peu de prières qui nous sont racontées dans les Actes, mais vous avez là une des prières de toute l'Église, de toute la communauté. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, on a des cantiques qui expriment cela, au sujet de la création qui nous parle de la puissance de Dieu. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Vous voyez, ils comprennent maintenant que tout l'Ancien Testament a été donné par le Saint-Esprit et que les paroles de David ne sont pas les paroles d'un homme simplement qui a fauté, mais que ce sont les paroles du Saint-Esprit. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, c'est le psaume premier, hein. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. C'était quelque chose qu'ils n'avaient pas compris avant, hein. Puis tout d'un coup, ils avaient la lumière sur ce texte d'un psaume. C'était le psaume 2. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ça, c'est mystérieux pour nous, hein, mais c'était connu par Dieu. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils n'ont pas dit, Seigneur, maintenant c'est trop difficile, nous nous arrêtons. Pas du tout. Au contraire, ils sont stimulés et ils demandent, étends ta main. On avait étendu les mains humaines sur eux. Eh bien maintenant, ils demandent, étends ta main à toi pour qu'ils se fassent des guérisons par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Ils n'ont pas dit par nous, mais par le nom, tout est toujours sur le nom, sur la personne de Jésus. Quand ils eurent prié, alors qu'est-ce qui se passe? Dieu manifeste qu'il est là, qu'il les a entendus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'était la hardiesse du Saint-Esprit et non pas la hardiesse charnelle. Et alors, vous avez, pour finir, du verset 32 au verset 37, un deuxième petit sommaire qui nous montre la vie de l'Église primitive. Il y avait déjà, à la fin du chapitre 2, un premier petit sommaire qui montrait ce qu'était la vie de la communauté primitive. Et dans ce petit sommaire du chapitre 2, nous aurons l'occasion d'y revenir, il était manifesté que dans la première communauté, il y avait une unité et un rayonnement merveilleux. Il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, et puis ils prenaient leur repas avec joie. Voilà le petit sommaire, le premier petit sommaire qui nous montre ce qui se passait dans l'Église primitive. Maintenant, nous avons un deuxième sommaire dans la fin de ce chapitre, où alors le thème central, ce n'est plus seulement l'unité, mais on partageait les biens, mais d'une façon volontaire. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'était donc l'unité. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. L'égoïsme était tué. Il y avait maintenant le don. Mais tout était commun entre eux. Ça, c'était le vrai communisme. Le communisme athée dit « ce qui est à toi est à moi ». Et il veut te ravir ce que tu as. Le communisme chrétien dit, ce qui est à moi, est à toi. Et il partage, n'est-ce pas? On apporte aux autres. Mais cela se fait volontairement. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage, voilà, on voit ce que c'est qu'être un témoignage, de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, Voyez que ce n'était pas une petite élite. Tous étaient bénis, car il n'y avait parmi eux aucun né indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le Seigneur déposait le prix de ce qu'ils avaient vendu, et il le déposait aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et on a un exemple, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, et qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais il a fait cela volontairement, et sa sœur, qui s'appelait, semble-t-il, Marie de Jérusalem, la mère de Marc, qui était le neveu ou le cousin, selon d'autres versions, de Barnabas, eh bien Marie avait gardé une maison, et c'est là que l'Église se réunissait. Donc il y avait des gens qui avaient à cœur de donner, il avait un champ, il l'a vendu, mais il a apporté cela aux pieds des apôtres. Mais c'était tout volontaire, il n'y avait pas d'imposition. Voilà ce qu'était l'Église primitive. Nous nous arrêtons là, et si vous avez des questions, réfléchissez, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, notez-le, et puis vous nous le direz ce soir, et nous chercherons à répondre, mais uniquement par la parole. Alors, quel est le titre que vous donneriez à ce chapitre? Est-ce que ça dit assez? Oui, tu peux dire ça. On a dit ni argent ni or, mais il me semble qu'on pourrait dire première arrestation. Première arrestation. Ils ont été arrêtés. Hein. Quand on commence, il y a des stops. Hein. On risque d'être arrêté. Alors, dans cette première arrestation, on voit comment ils se sont comportés, parce qu'il y en aura une seconde après. Hein. Alors, voyons comment ils ont réagi. Mais vous pouvez mettre autre chose, vous. Hein. Mais moi, je mettrais peut-être première arrestation. Hein. Les apôtres foncent, mais voilà qu'il y a une arrestation. Mais c'était prévu, et c'est ça qui m'impressionne tellement. Qu'est-ce qui se réalisait pour eux? La parole de Jésus. Alors, il n'y avait pas d'étonnement. Nous, on est toujours étonnés, mais qu'est-ce qui nous arrive? On veut servir le Seigneur, puis il y a des obstacles. Qui vous a dit qu'il n'y avait pas d'obstacle quand on voulait servir le Seigneur? Je ne vais pas vous dire, si vous vous donnez au Seigneur Jésus, vous n'allez plus avoir d'épreuves, je serai un menteur. Parce que Jésus a dit, tu veux me suivre? Mais tu sais que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel des retraites, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Et je me souviens toujours de cette réunion, j'avais 15 ans, quand un frère avait dit cela dans ma communauté où je suis né. Il avait cité ce verset du chapitre 10 de Matthieu. Il suffit aux disciples d'être comme son maître. Puis nous avait tous regardé, puis nous a dit, est-ce qu'il vous suffit d'être comme Jésus? S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, combien plus les gens de sa maison, hein? On aura des oppositions, on aura des incompréhensions, on sera peut-être rejeté. Il suffit aux disciples d'être comme son maître. Le serviteur n'est pas plus que celui que son maître, et l'envoyé n'est pas plus que celui qu'il a envoyé. Au fond, la vie de Jésus réellement se reproduisait dans les apôtres, et c'était ça le témoignage. Vous serez mes témoins. C'est pas raconter un petit témoignage, seulement. C'est pouvoir vivre ce que le Seigneur a vécu. Dieu notre Père, nous voulons te demander que ta parole nous pénètre, nous enseigne, nous corrige. et que nous revenions vraiment à la réalité. Dans ce monde où tout devient festivité, festival, jusque dans les milieux religieux, nous voulons te demander que tu nous donnes la vision claire de ce que dit ta parole et que nous ne partions pas en fusée pour nous désintégrer dans l'atmosphère. Après avoir fait beaucoup de bruit, tu n'aimes pas le bruit et nous voudrions entendre ton bruit à toi. Ce bruit qui vient du ciel, ce son d'en haut, donne-nous de comprendre ces choses dans notre génération et de ne pas suivre tous les courants du jour, mais de marcher dans l'empreinte de tes pas et d'avoir un témoignage rayonnant au sein même de la souffrance qui est dans notre programme. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.
Alors, préparez-vous.